Chapitre 2. Retour à Naufle. Était-elle donc si petite, la maison de banque de Naufle, et si basse l'église de l'autre côté du minuscule champ de foire, et si étroit le chemin montant qui tournait pour aller vers Cresset, Thoiry, Septeuil? Le souvenir et la nostalgie agrandissent étrangement la réalité des choses. 9 années écoulées. Cette façade, ces arbres, ce clocher, venaient de rajeunir Gutiot de 9 années, ou plutôt non, de le vieillir au contraire, de tout ce temps écoulé. Gutiot avait retrouvé instinctivement son geste de jadis pour s'incliner en passant la porte basse qui séparait les deux pièces de négoce du comptoir au rez-de-chaussée. Sa main avait cherché d'elle-même la corde d'appui le long du madrier de chêne qui servait d'axe à l'escalier tournant pour monter à son ancienne chambre. Ainsi, c'était là qu'il avait tant aimé, comme jamais avant, comme jamais depuis. La pièce exiguë, collée sous les solives du toit, sentait la campagne et le passé. Comment un logis si resserré avait-il pu contenir un aussi grand amour? Par la fenêtre, à peine une fenêtre, une lucarne plutôt, il apercevait un paysage inchangé. Les arbres étaient fleuris en ce début de mai, comme au temps de son départ, 9 ans plus tôt. Pourquoi les arbres en fleurs dispensent-ils toujours une si forte émotion? Entre les branches des pêchers, roses et arrondies comme des bras, apparaissait le toit de l'écurie, cette écurie dont Gutiot s'était enfui devant l'arrivée des frères Cresset. Ah, la belle peur qu'il avait eue cette nuit-là! Il se retourna vers le miroir d'étain, toujours à la même place sur le coffre de chêne. Chaque homme, au souvenir de ses faiblesses, se rassure à se regarder, oubliant que les signes d'énergie qu'il lit sur son visage ne font impression qu'à lui-même et que c'est devant les autres qu'il fut faible. Le métal poli au reflet de grisaille renvoyait à Gutiot le portrait d'un garçon de 30 ans, brun, avec une ride assez profondément creusée entre les sourcils et 2 yeux sombres dont il n'était pas mécontent, car ces yeux-là avaient vu déjà bien des paysages. La neige des montagnes, les vagues de deux mers, et allumé le désir dans le cœur des femmes et soutenu le regard des princes et des rois. Gutiot Baglioni, mon ami, que n'as-tu continué une carrière si bellement commencée? Tu étais allé de Sienne à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Naples, à Lyon, à Avignon. Tu portais messages pour les reines, trésors pour les prélats. Pendant 2 grandes années, tu as circulé ainsi parmi les plus grands seigneurs de la terre, chargés de leurs intérêts ou de leurs secrets, et tu avais à peine 20 ans. Tout te réussissait. Il n'est que de voir les attentions dont on t'entoure à présent, au retour de 9 années d'absence, pour juger des souvenirs que tu as laissés. Le Saint-Père lui-même te le prouve. Aussitôt qu'il te sait de retour en Avignon pour un banal recouvrement de créances, lui, le souverain pontife, du haut du trône de Saint-Pierre et submergé par tant de tâches, il demande à te voir, il s'intéresse à ton sort, à ta fortune, il a la mémoire de se rappeler que tu as eu un enfant jadis, il s'inquiète de te savoir privé de cet enfant, il consacre à te conseiller quelques-unes de ses précieuses minutes. « Un fils doit être élevé par son père, te dit-il. » Et il te fait délivrer sauf conduit de messager papal, le meilleur qui soit. Et Bouville. Bouville que tu viens trouver, porteur de la bénédiction du pape Jean, et qui te traite ainsi qu'ami depuis longtemps attendu, et qui a de grosses larmes dans les yeux en te voyant, et qui te délègue un de ses propres sergents d'armes pour t'accompagner dans ta démarche, et te remet une lettre, cachetée de son sceau, adressée au frère Cresset afin qu'on te laisse voir ton enfant. Ainsi, les plus hauts personnages s'occupaient de Gutiot, sans aucun motif intéressé, pensait celui-ci, simplement pour l'amitié qu'inspirait sa personne, pour l'agilité de son esprit et sans doute pour une certaine façon de se conduire avec les grands de ce monde qui lui était un don de nature. Ah, que n'avait-il persévéré? Il aurait pu devenir l'un de ces grands Lombards, puissants dans les États à l'égal des princes, comme Machi dei Machi, gardien actuel du trésor royal de France, ou bien comme Frescobaldi d'Angleterre, qui entrait sans se faire annoncer chez le chancelier de l'échiquier. Était-il trop tard, après tout? Bien au fond de lui-même, Gutiot se sentait supérieur à son oncle et capable d'une plus éclatante réussite. car le bon oncle Spinello, à froidement jugé, faisait un négoce assez courant. Capitaine général des Lombards de Paris, il l'était devenu à l'ancienneté. Il possédait du bon sens, certes, et de l'habileté, mais point un exceptionnel talent. Guccio considérait tout cela de façon impartiale, à présent que, passé l'âge des illusions, il se sentait un homme de raisonnement pondéré. Oui, il avait eu tort autrefois. Or, sa malheureuse aventure avec Marie de Cressay, il ne pouvait se le cacher, était la cause de ses renoncements. Car pendant de longs mois, sa pensée n'avait été occupée que de ce déplorable événement, tous ses actes commandés par la volonté de dissimuler cet échec. Ressentiment, déception, abattement, honte de revoir ses amis et ses protecteurs après un dénouement peu glorieux, rêve de revanche. Son temps s'était usé à cela tandis qu'il s'installait dans une nouvelle vie, à Sienne, où l'on ne savait de ses amours de France que ce qu'il voulait bien en dire lui-même. Ah ! Elle ignorait, cette ingrate Marie, la grande destinée dont elle avait brisé le cours en refusant autrefois de fuir avec lui. Que de fois en Italie il y avait amèrement songé. Mais maintenant, il allait se venger. Et si Marie, soudain, lui déclarait qu'elle l'aimait toujours, qu'elle l'avait attendu sans faiblesse et qu'un affreux malentendu avait été la seule cause de leur séparation. Oui, si cela était. Guccio savait qu'en ce cas, il ne résisterait point, qu'il oublierait ses griefs aussitôt qu'exprimés et qu'il emmènerait sans doute Marie de Cressay à Sienne, dans le palais familial, pour présenter sa belle épouse à ses concitoyens et pour montrer à Marie cette ville neuve. Moins grande que Paris ou que Londres, certes, mais qui l'emportait en magnificence architecturale, avec son municipio édifié depuis peu et dont Simone Martini terminait actuellement les fresques intérieures, avec sa cathédrale noire et blanche, qui serait la plus belle de Toscane une fois sa façade achevée. Ah, le plaisir de partager ce que l'on aime avec une femme aimée. Et que faisait-il à rêver devant un miroir d'étain au lieu de courir à Cressay et de profiter de l'émotion de la surprise? Et puis il réfléchit. Les amertumes pendant 9 ans remâchées ne pouvaient pas s'oublier d'un coup, ni la peur non plus qu'il avait chassée un matin de ce jardin même. Les cris furieux des deux frères Cressay qui voulaient lui rompre l'échine. Sans un bon cheval, il était mort. Mieux valait envoyer le sergent d'armes avec la lettre du comte de Bouville. La démarche aurait plus de poids. Mais Marie, après 9 ans, était-elle toujours aussi belle? Serait-il toujours aussi fier de se montrer à son bras? Guccio pensait avoir atteint l'âge où l'on se conduit par la raison. Or, si une ride s'enfonçait entre les sourcils, il était toujours le même homme, le même mélange d'astuce et de naïveté, d'orgueil et de songe. Tant il est vrai que les années changent peu notre nature et qu'il n'est pas d'âge pour nous délivrer des erreurs. Les cheveux blanchissent plus vite que les faiblesses. On rêve d'un événement pendant 9 années. On l'espère et on le redoute. On prie la Vierge chaque nuit qu'il s'accomplisse et l'on prie Dieu chaque jour de l'empêcher. On s'est préparé, soir après soir, matin après matin, à ce que l'on dira s'il se produit. On a murmuré toutes les réponses que l'on donnera à toutes les questions que l'on a imaginées. On a prévu les 100, les 1000 façons dont cet événement pourrait survenir. Il survient. On est désemparé. Ainsi se trouve Marie de Cressay ce matin-là, parce que sa servante, qui fut autrefois confidente de son bonheur et de son drame, est venue tout à l'heure lui chuchoter à l'oreille que Guccio Baglioni était de retour. Qu'on l'a vu arriver au village de Naufle, qu'il semble avoir train de seigneur, que des sergents du roi lui servent d'escorte, qu'il doit être messager du pape. Les gamins sur la place ont regardé, bouche bée, le harnais de cuir jaune brodé des clés de Saint-Pierre. À cause de ce harnais, cadeau du pape au neveu de ses banquiers, toutes les cervelles du village se sont mises à travailler. Et la servante est là, essoufflée, les yeux brillants des mois au-dessus de ses joues rouges, et Marie de Cressay ne sait ce qu'elle doit ni va faire. Elle dit « Ma robe !» Cela lui est venu tout seul, sans y réfléchir. Et la servante a aussitôt compris, parce que Marie a peu de robes et qu'elle n'en peut demander d'autre que celle-là qui fut cousue naguère dans le beau tissu de soie donné par Guccio, celle qu'on sort du coffre chaque semaine, qu'on brosse avec soin, qu'on défroisse, qu'on aère, devant laquelle on pleure parfois et qu'on ne revêt jamais. Guccio peut apparaître d'un moment à l'autre. La servante l'a-t-elle aperçu? Non, elle ne rapporte que des nouvelles qui couraient de seuil en seuil. Peut-être est-il déjà en chemin. Si seulement Marie avait une pleine journée pour se préparer à cette arrivée. Elle a attendu 9 années, et cela revient à n'avoir qu'un seul instant. Qu'importe que l'eau soit froide dont elle s'asperge la gorge, le ventre, les bras, devant la servante qui se détourne, surprise de l'impudeur subite de sa maîtresse, et puis coule un regard vers ce beau corps dont c'est pitié vraiment qu'il soit sans homme depuis si longtemps, et qu'elle se met à jalouser un peu en voyant comme il est demeuré plein et ferme, et pareil à une belle plante sous le soleil. Pourtant, les seins sont plus lourds qu'autrefois et s'affaissent légèrement sur la poitrine. Les cuisses ne sont plus aussi lisses, le ventre est marqué de quelques petites stries laissées par la maternité. Allons, le corps des filles nobles s'abîme aussi, moins que le corps des servantes, certes, mais il s'abîme quand même, et c'est justice de Dieu qui fait toutes les créatures pareilles. Marie a du mal à entrer dans la robe. L'étoffe a-t-elle rétréci d'être restée si longtemps sans usage, ou bien est-ce Marie qui a grossi ? On dirait plutôt que la forme de son corps s'est modifiée, comme si les contours, les rondeurs n'étaient plus à la même place. Elle a changé. Elle sait bien aussi que le duvet blond est plus fourni sur sa lèvre, que les taches de rousseur dues à l'air des champs se sont incrustées plus largement sur son visage. Ses cheveux, cette brassée de cheveux dorés dont il faut en hâte retisser les tresses, n'ont plus leur souplesse lumineuse d'antan. Et voici que Marie se retrouve dans sa robe de fête qui la gêne aux entournures, et ses mains rougies par les travaux de la maison sortent des manches de soie verte. Qu'a-t-elle fait de toutes ces années qui maintenant ne semblent plus qu'un soupir du temps ? Elle a vécu de ce souvenir. Elle s'est nourrie quotidiennement de ces quelques mois d'amour et de bonheur, comme d'une provision trop rapidement engrangée. Elle a écrasé chaque instant de ce passé au moulin de la mémoire. Elle a revu 1000 fois le jeune Lombard, arrivant pour réclamer sa créance et chassant le méchant prévôt. 1000 fois, elle a reçu son premier regard, refait leur première promenade. Elle a 1000 fois répété son vœu dans le silence et l'ombre nocturne de la chapelle, devant le moine inconnu. 1000 fois, elle a découvert sa grossesse. 1000 fois, elle a été arrachée par violence au couvent des filles du faubourg Saint-Marcel et conduite en litière fermée, tenant son nourrisson serré contre sa poitrine, à Vincennes, au château des Rois. 1000 fois, on a devant elle revêtu son enfant des langes royaux et on le lui a ramené mort. Et elle en a encore le cœur poignardé. Et elle est toujours la feu comtesse de Bouville, et elle l'espère en proie aux tourments infernaux. 1000 fois, elle a juré sur les évangiles de garder le petit roi de France, et de ne rien révéler des atroces secrets de la cour, même en confession, et de ne jamais revoir Guccio. Et 1000 fois, elle s'est demandé « Pourquoi est-ce à moi que cela est arrivé ?» Elle l'a demandé au grand ciel bleu des jours d'août, aux nuits d'hiver passées à grelotter seules entre des draps raides, aux aurores sans espérance. Pourquoi ? Elle l'a demandé aussi au linge compté pour la buanderie, aux sauces remuées sur le feu de la cuisine, aux viandes mises en saloir, aux ruisseaux qui courent au pied du manoir et au bord duquel on cueille les joncs et les iris les matins de procession. Elle a, par instants, haï Guccio, furieusement, pour le seul fait d'exister et d'avoir traversé sa vie comme le vent d'orage traverse une maison aux portes ouvertes. Et puis aussitôt, elle s'est reproché cette pensée comme un blasphème. Elle s'est prise tour à tour pour une très grande pécheresse à laquelle le Tout-Puissant a imposé cette perpétuelle expiation, pour une martyre, pour une sorte de sainte tout exprès désignée par les volontés divines à dessein de sauver la couronne de France, la descendance de Saint-Louis, tout le royaume, en la personne de ce petit enfant à elle confié. C'est de cette façon qu'on peut devenir folle, lentement, sans que les autres autour de vous s'en aperçoivent. Des nouvelles du seul homme qu'elle ait aimé, des nouvelles de son époux auquel personne ne reconnaît ce titre, elle n'en a eu que de loin en loin, par quelques paroles du commis de la banque à la servante. Guccio était vivant, c'était tout ce qu'elle savait. Comme elle a souffert de l'imaginer, d'être impuissante à l'imaginer plutôt, en un pays lointain, une ville étrangère, parmi des parents d'elle inconnus, auprès d'autres femmes sûrement, d'une autre épouse peut-être. Et voilà que Guccio est à un quart de lieue. Mais est-ce vraiment pour elle qu'il est revenu, ou simplement pour régler quelque affaire du comptoir ? Ne serait-ce pas le plus affreux qu'il fût si proche et que ce ne fût pas pour elle ? Et pourrait-elle lui en faire reproche, puisqu'elle-même a refusé de le voir voici 9 ans, elle-même lui a si durement signifié de ne plus jamais l'approcher, et sans pouvoir lui révéler la raison de cette cruauté. Et soudain, elle s'écrie « L'enfant !» Car Guccio va vouloir connaître ce petit garçon qu'il croit le sien. Ne serait-ce pas pour cela qu'il a reparu ? Jeannot est là, dans le pré qu'on aperçoit par la fenêtre, le long de la Maudre, ce ruisseau bordé d'iris jaunes et trop peu profond pour qu'on s'y noie, jouant avec le dernier fils du palefrenier, les deux garçons du charron et la fille du meunier, ronde comme une boule. Il a de la boue sur les genoux, sur le visage, et jusque dans l'épi de cheveux blonds qui se tord sur son front. Il crie fort. Il a des mollets fermes et roses, celui qu'on croit un petit bâtard, un enfant du péché, et qu'on traite comme tel. Mais comment ne s'aperçoivent-ils pas tous, les frères de Marie, les paysans du domaine, les gens de Naufle, que Jeannot n'a rien de la blondeur dorée, presque rousse, de sa mère, et moins encore de la noirceur profonde, du teint couleur d'épices de Guccio? Comment ne voit-on pas qu'il est un vrai petit capétien, qu'il en a le visage large, les yeux bleu pâle, un peu trop écartés, le menton qui deviendra fort, la blondeur de paille? Le roi Philippe le Bel était son grand-père. C'est miracle que les gens aient le regard si peu ouvert et ne reconnaissent dans les choses et les êtres que l'idée qu'ils s'en font. Quand Marie a demandé à ses frères d'envoyer Jeannot chez les moines augustins d'un couvent voisin afin qu'il y apprenne à lire et à écrire, ils ont haussé les épaules. « Nous savons lire un peu et cela ne nous sert guère. Nous ne savons pas écrire et cela ne nous servirait de rien », a répondu Jean de Cressay. « Pourquoi veux-tu que Jeannot ait besoin d'en apprendre plus long que nous ? C'est bon pour les clercs d'étudier, et tu ne peux même point le faire clair puisqu'il est bâtard. » Dans le pré aux iris, l'enfant suit en rechignant la servante qui est venue le chercher. Il jouait au chevalier, la gaule en main, et était au moment d'enfoncer les défenses de la pantie où des méchants retenaient prisonnière la fille du meunier. Mais voici justement que les frères de Marie rentrent d'inspecter leur champ. Ils sont poudreux, sentent la sueur de cheval et ont les ongles noirs. Jean, l'aîné, est déjà pareil à ce que fut leur père. Il a l'estomac lourd par-dessus la ceinture, la barbe broussailleuse, et les deux crocs lui manquent parmi ses dents gâtées. Il attend une guerre pour se révéler, et chaque fois que devant lui on parle de l'Angleterre, il crie que le roi n'a qu'à lever l'ost et que la chevalerie saura bien montrer ce dont elle est capable. Il n'est point chevalier, du reste, mais il pourrait le devenir à la faveur d'une campagne. Il n'a connu des armées que l'ost boueux de Louis Hutin, et l'on n'a pas fait appel à lui pour l'expédition d'Aquitaine. Il a nourri un moment d'espoir lors des intentions de croisade de Monseigneur Charles de Valois, et puis Monseigneur Charles est mort. Ah, que ce baron-là eût fait un bon roi. Pierre de Cressay, le cadet, est resté plus mince et plus pâle, mais ne soigne guère davantage sa mise. Sa vie est un mélange d'indifférence et de routine. Ni Jean ni Pierre ne s'est marié. Leur sœur veille au ménage depuis la mort de leur mère, Dame Eliabelle. Ils ont ainsi quelqu'un pour assurer leur cuisine, réparer leur gros linge. Et contre Marie, ils peuvent s'emporter à l'occasion, plus aisément qu'ils n'oseraient le faire envers une épouse. Si leurs chausses sont déchirées, il leur est toujours loisible de tenir Marie pour responsable de ce qu'ils n'ont pas trouvé femme à leur convenance, à cause du déshonneur par elle jeté sur la famille. À cela près, ils vivent dans une aisance limitée grâce à la pension que le comte de Bouville fait régulièrement servir à la jeune femme sous le prétexte qu'elle fut nourrice royale, et grâce aussi aux cadeaux en nature que le banquier Ptolomée continue d'envoyer à celui qu'il croit son petit-neveu. Le péché de Marie a donc pour les deux frères été de quelque avantage.